Vous écoutez France Culture.
Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature, 1903-2010. 1999.
Günter Grass.
Né dans la ville libre de Danzig, actuelle Gdańsk, Pologne, en 1927.
Langue.
Allemand.
En 1945, il est fait prisonnier par les forces armées américaines.
Libéré, il travaille dans une ferme puis à la mine, avant d'entreprendre des études d'art plastique à Düsseldorf et à Berlin, qui lui permettent de gagner sa vie en tant que sculpteur et graphiste.
Il s'essaye alors à l'écriture de quelques poèmes et à la rédaction d'un roman.
En 1959, la publication de son roman « Le tambour » lui vaut une renommée mondiale.
En 2006, Günter Grass révèle son enrôlement pendant la guerre dans la Waffen-SS.
La droite allemande dénonce l'hypocrisie de ses discours sur le passé nazi de l'Allemagne et prie l'Académie Nobel d'exiger le retrait du prix et le remboursement de son montant.
La requête est rejetée.
À suivre. Estimés membres de l'Académie suédoise, mesdames et messieurs, à suivre. C'est avec cette annonce qu'au XIXe siècle se prolongeaient les œuvres de fiction. Magazines et journaux leur laissaient de l'espace. Le roman feuilleton était florissant. Alors que les premiers chapitres sortaient noir sur blanc de la presse à brefs intervalles, l'auteur avait à peine écrit le milieu de l'histoire et n'avait aucune idée de la fin. Ce qui tenait le lecteur en haleine, ce n'était pas seulement de triviales histoires d'horreur ou de passions déchirantes. Certains romans de Dickens sont parus ainsi, par petits bouts. Anna Karénine de Tolstoï fut un roman feuilleton. Pourvoyeur infatigable de feuilletons grand public, Balzac, encore inconnu, dut s'instruire dans l'art du suspense quand il devait le ménager chaque jour, juste avant la fin de la colonne. Presque tous les romans de Fontane furent d'abord imprimés dans des journaux et des magazines sous forme de feuilletons, Errements et tourments par exemple, au sujet duquel le propriétaire du Fossische Zeitung s'écria indigné « Cette pornographie ne finira donc jamais !» Les hommes ont toujours raconté des histoires. Longtemps avant que la race humaine ne s'exerce peu à peu à écrire et à lire, tout le monde en racontait. Chacun était tour à tour auditeur et conteur. Bientôt l'on en vit, parmi les hommes encore illettrés, dont les récits étaient plus nombreux ou meilleurs, ou bien qui mentaient avec davantage de succès. Et parmi eux, il y en eut encore qui réussirent, par leur habileté, à endiguer le flot paisible de leurs récits, puis à faire déborder la masse de matière ainsi endiguée et à la détourner vers un nouveau cours. Loin de s'infiltrer, elle trouvait soudain, chose étonnante, un large lit, charriant toutes sortes d'objets qui font la matière des intrigues secondaires. Ses tout premiers conteurs ne dépendaient pas de la lumière du jour ni de celle de la lampe. Ils murmuraient dans l'ombre et savaient même tirer de l'obscurité et du crépuscule un surcroît d'intérêt. Ils ne craignaient ni la soif dans le désert, ni les chutes d'eau grondantes et n'interrompaient le cours de l'action que lorsque la fatigue montait de toutes parts avec cette promesse « à suivre ». Alors ils trouvaient autour d'eux de nombreux auditeurs qui, certes, eux aussi savaient compter, sans posséder pourtant leur inépuisable faconde. Que racontait-on quand personne ne savait écrire? Depuis le début, depuis Caïn et Abel, il aura beaucoup été question de meurtre et d'homicide. La vengeance, les dettes de sang surtout, fournissaient de la matière. Et bientôt le génocide fut monnaie courante. Mais on pouvait aussi parler de déluge et de sécheresse, d'années maigres et grasses. On ne craignait pas les longues énumérations de bétail et d'esclaves. Nul récit, s'il voulait paraître crédible, ne pouvait faire l'économie d'une généalogie complète. Qui vint après qui et avant qui? Les légendes héroïques furent bâties sur ce modèle. Triangles amoureux, populaires hier comme aujourd'hui, mais aussi monstrueuses histoires dans lesquelles des créatures mi-hommes, mi-bêtes régnaient sur des labyrinthes ou bien veillaient dans les roseaux. Voici ce qu'auront été les premiers récits produits pour le grand public. Pour ne rien dire des légendes relatives aux dieux et aux idoles, aux voyages en mer, enrichis, polis, complétés, modifiés, inversés, avant qu'un conteur, qui peut-être s'appelait Homère, ou, dans le cas de la Bible, un groupe de conteurs, ne les fixe par écrit. La littérature était née. En Chine, en Perse, en Inde, dans les montagnes du Pérou et ailleurs, partout où l'écrit est apparu, des conteurs, connus sous un nom individuel ou collectif ou bien restés anonymes, sont devenus littérateurs. Nous avons beau être comme enracinés dans l'écrit, nous avons conservé le souvenir du récit oral, de l'origine orale de la littérature. Or, si nous avions oublié que tout récit a commencé par sortir d'une bouche, tantôt pâteux, hésitant, puis pressé, comme poussé par la crainte, murmuré, comme s'il y avait là un secret à protéger, ou sonore au contraire, ponctué d'interpellations ou de questions éclatantes qui inlassablement, telle une trompe, cherchent à aspirer l'alpha et l'oméga des choses, si nous avions, aveuglés par l'écrit, oublié tout cela, nos récits ne seraient que du papier et il leur manquerait le souffle humide de la vie. Et pourtant, quelle est notre chance de disposer de tant de livres? Qu'on les lise à voix ou basse ou haute, ils demeurent. Ils m'ont servi d'exemple. Des maîtres comme Melville ou Dublin, mais aussi l'allemand biblique de Luther, m'ont poussé, quand j'étais jeune et influençable, à écrire en prononçant tout haut mon texte, à mêler l'encre et la salive. Cela m'est resté. Depuis plus de 40 ans, supportant avec plaisir ma corvée d'écriture, je mâche des phrases complexes, filandreuses et coriaces pour en faire une bouillie docile. Je marmonne à part moi dans la belle solitude de l'écriture et ne laisse aller au papier que ce qui, prononcé, a trouvé son registre changeant, son écho et sa réverbération. Oui, j'aime mon métier. Il me tient compagnie, une compagnie dont les mille voix veulent se faire mot et trouver sur le manuscrit leur traduction la plus fidèle possible. Avec la publication de mes deux premiers romans, Le tambour et les années de chien, et la nouvelle Le chat et la souris, qui s'était glissée entre eux, j'appris, écrivain relativement jeune encore, que les livres peuvent faire scandale, déchaîner la fureur et la haine. Il y eut des gens pour juger leur nid souillé par ce que j'avais entrepris par amour pour mon pays. On dit depuis que je suis un auteur controversé. Si l'on considère les écrivains réprouvés qu'on exile en Sibérie ou au diable, on verra que je suis en bonne compagnie. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Au contraire, nous avons là l'occasion d'éprouver quelle énergie procure une situation de controverse permanente. Du reste, choisir ce métier implique de prendre ce genre de risque. C'est ainsi. Les écrivains dont le pouvoir de création se limite aux mots crachent bien volontiers et en parfaite connaissance de cause dans la soupe des puissants, qui toujours réaffirment leur droit à une place sur le banc des vainqueurs. C'est pourquoi l'histoire de la littérature est corrélative au développement et au perfectionnement des méthodes de censure. La méfiance des puissants contraignit Socrate à vider la coupe de poison jusqu'à la dernière goutte, envoya Ovide en exil, obligea Sénèque à s'ouvrir les veines. Pendant des siècles et jusqu'aujourd'hui, les plus beaux fruits littéraires obtenus dans le verger de la culture occidentale ont orné de leur nom l'index de l'Église catholique. Quelles entraves et quels retardements les lumières européennes ne durent-elles pas aux mesures de censure des monarques absolus ? Combien d'écrivains allemands, italiens, espagnols et portugais le fascisme a-t-il chassé hors de leur pays, de leur ère linguistique ? Combien y eut-il de victimes de la terreur lénino-stalinienne ? Aujourd'hui encore, en Chine, au Kenya, en Croatie, à quelles contraintes les écrivains ne sont-ils pas exposés ? Au début des années 50, quand j'ai commencé à écrire de manière consciente, Heinrich Böll était déjà un auteur connu, sinon reconnu. Avec Wolfgang Köppen, Günther Heich et Arno Schmidt, il se tenait à l'écart d'une activité culturelle alors dominée par un désir de restauration. La littérature d'après-guerre, jeune encore, avait maille à partir avec la langue allemande, corrompue sous la domination du national-socialisme. En plus, la génération de Böll, mais aussi les auteurs plus jeunes dont je faisais partie, trouvaient sur leur chemin, comme un panneau d'interdiction, cette sentence de Théodore Adorno. Écrire un poème après Auschwitz est barbare. Et ce fait affecte même la connaissance selon laquelle il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Donc, plus d'eux à suivre. Bon, nous avons écrit quand même, tout en devant considérer, bien sûr, comme l'a fait Adorno dans son livre de 1951, Minima Moralia, réflexion sur la vie mutilée, Auschwitz comme une césure et une brisure irréparable dans l'histoire de notre civilisation. C'était la seule manière de contourner l'interdit. Cependant, le Méné, Tekel, Parsine, compté, jugé, divisé d'Adorno, a conservé jusqu'aujourd'hui son pouvoir. Les auteurs de ma génération se sont frottés à lui en combat déclaré. Personne ne voulait, ne pouvait se taire. Il s'agissait de libérer la langue allemande du pas de loi, de ses idylles, de son intériorité bleutée. C'était à nous, les enfants aux doigts brûlés, qu'il revenait de conjurer les absolus, le blanc et noir idéologique. Le doute et le scepticisme furent nos parrains. Ils nous offraient toute la variété des nuances de gris. Quoi qu'il en soit, je me suis imposé cet ascèse pour ne découvrir qu'ensuite la richesse de ma langue, que j'avais un peu trop vite déclarée tout entière coupable. Je connus sa douceur facile à séduire, son inclination pensive à la profondeur, sa rudesse si souple, le chatoiement de ses dialectes, sa simplicité et son ambiguïté, ses excentricités, l'épanouissement superbe de ses subjonctifs. Il s'agissait de faire fructifier ce fonds regagné, malgré Adorno, ou stimulé par son verdict. Ainsi seulement l'écriture pouvait-elle être poursuivie après Auschwitz, poésie comme prose. Ainsi seulement, en devenant mémoire et en ne laissant pas passer le passé, la littérature germanophone d'après-guerre pouvait-elle justifier pour elle-même et devant la postérité cette règle universelle de l'écriture ? À suivre. Ainsi seulement parvint-on à garder ouverte la blessure et à repousser l'oubli souhaité et prescrit par tant d'Allemands avec un « il était une fois obstiné ». Tout écrivain est de son temps, quoiqu'il assure avec véhémence être né trop tôt ou trop tard. Ce n'est pas lui qui choisit librement son sujet. C'est au contraire le sujet qui s'impose à lui. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de choisir. Si cela n'avait dépendu que de moi, de mon goût du jeu, je n'aurais suivi d'autre loi que celle de l'esthétique et, insouciant autant qu'inoffensif, j'aurais trouvé ma place en écrivant des textes insolites et incongrus. Il n'en a pas été ainsi. Bien des choses y résistaient. L'histoire avait enfanté des montagnes de ruines et de cadavres qui grandissaient à mesure que j'essayais de les écarter. Pas moyen d'y échapper. Et puis je suis né dans une famille de réfugiés, si bien qu'en plus des aiguillons habituels qui poussent un écrivain à commencer et poursuivre son œuvre, l'orgueil ordinaire, la crainte de l'ennui, le travail de l'amour-propre, la certitude d'avoir irrémédiablement perdu ma patrie s'est révélée un moteur supplémentaire. En racontant Dantzig, ma ville perdue, détruite, il s'agissait, non certes de la regagner, mais tout de même de la conjurer. Cette obsession d'écrire m'a aiguillonné. Non sans vanité, je voulais, mes lecteurs et moi, nous transporter dans l'image pour que ce qui était perdu ne sombre pas dans l'oubli et au contraire regagne, grâce à l'art littéraire, sa forme et sa présence. Pour que revivent la grandeur et les petitesses misérables de ce Dantzig-là, avec ses églises, ses cimetières, la rumeur des chantiers navals et l'odeur de la Baltique et son déferlement sourd, pour que résonne à nouveau sa langue, depuis longtemps agonisante, pareille à un marmonnement et chaude comme l'étable, pour que soit conservée la mémoire de ses péchés avouables et des autres, des crimes avec lesquels on vivait, comme avec une dette à payer plus tard, mais dont on savait qu'aucune confession ne pourrait les absoudre. Jamais. Une perte de cette nature est devenue pour d'autres écrivains la matrice d'une narration poursuivie jusqu'à l'obsession. Il y a quelques années, une conversation avec Salman Rushdie nous conduisit à la conclusion que mon Dantzig perdu représentait pour moi ce qu'était pour lui son Bombay disparu. Source, fosse à ordures, point fixe et centre du monde. Cette présomption, cette démesure appartiennent à la littérature. Elles sont la condition nécessaire d'une narration capable d'embrasser tous les registres. Ni les artistes cisèlements d'une psychologie raffinée, ni un réalisme qui se prend pour un reflet fidèle de la nature, ne permettent de dominer une si monstrueuse quantité de matière. Quoique nous devions à la tradition rationaliste des Lumières, le cours absurde de l'histoire rend dérisoire toute explication uniquement rationnelle. Le prix Nobel, pourvu qu'on lui retire son habit solennel, repose sur l'invention de la dynamite qui, comme d'autres rejetons de l'esprit humain, la fission de l'atome, le décryptage du génome, tous deux nobélisés, a causé dans le monde autant de bien que de mal. De même, la littérature possède une puissance explosive, bien que ces explosions ne se produisent et ne modifient le monde qu'avec retardement, pour ainsi dire, au ralenti. Et elles aussi peuvent être soit des bienfaits, soit une source de cris de douleur pour l'humanité. Comment de tels écrits subversifs pourraient-ils jouer ce rôle de dynamite littéraire ? Avons-nous le temps d'attendre les effets d'un allumage tardif? Pouvons-nous concevoir un livre à qui le manque d'avenir permit toutefois de s'épanouir? Ne dirait-on pas aujourd'hui que la littérature a pris sa retraite et que les jeunes auteurs aménagent Internet en terrain de jeu? Une immobilité affairée à laquelle le nom trompeur de « communication » donne une certaine aura se répand. Le moindre instant disponible est planifié autant qu'il est humainement possible, jusqu'à épuisement. La vallée de larmes de l'industrie culturelle emprisonne le monde occidental. Que faire? Dans mon athéisme, je n'ai plus qu'une chose à faire. M'agenouiller devant ce saint, toujours secourable, qui a permis de mettre en mouvement les rochers les plus lourds. Je l'implore donc. Saint Sisyphe, couronné du prix Nobel par la grâce de Camus, s'il te plaît, prends soin que la pierre au-dessus ne reste pas en place, que nous puissions continuer à la faire rouler, afin que nous soyons heureux avec elle et que le récit de notre peine ne prenne pas fin. Ce profond soupir sera-t-il entendu? Ou faut-il croire la rumeur selon laquelle seul l'homme sélectionné, quasi cloné, serait qualifié pour assurer la poursuite de l'histoire humaine? Certes, à quiconque du moins peut payer, on sait donner un rein neuf ou greffer un cœur. Nous téléphonons sans fil d'un bout à l'autre de la Terre. Satellites et stations spatiales nous environnent et prennent soin de nous. Suivant les résultats de recherche, elles aussi primées, on a conçu et réalisé des systèmes d'armement capables, en défendant leurs propriétaires, de les détruire mille fois. Tout ce que l'esprit humain conçoit trouve un jour ou l'autre son application souvent étonnante. Il n'y a que la faim dont on ne vienne pas à bout. Elle augmente même. Là où la pauvreté était endiguée, elle se mue en misère. Dans le monde entier, des foules de réfugiés sont jetées sur les routes. La faim les accompagne. Et aucune volonté politique associée au pouvoir économique qui soit décidée à mettre un terme à la prolifération de la misère. À la richesse s'entassant sur elle-même, la pauvreté répond par la croissance démographique. Le Nord et l'Ouest, riches et obsédés par leur sécurité, auront beau se barricader et devenir forteresse en face du Sud pauvre, le flot des réfugiés finira bien par les atteindre, et aucun verrou ne tiendra contre la poussée des affamés. Ceci fournira la matière des récits futurs. En fin de compte, il faudra bien que notre roman à tous soit poursuivi, et quand bien même un jour on ne pourrait plus écrire ou imprimer, quand on ne pourra plus se procurer ces instruments de survie que sont les livres, il y aura toujours des conteurs pour nous rendre la vie, de bouche à oreille, en filant à neuf les anciennes histoires, à voix ou haute ou basse, haletante, hésitante, proche tantôt du rire et tantôt des larmes.
C'était « Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature 1903-2010 » 1999
Günter Grass. Extrait.
Texte dit par Alain Rimou.
Traduction Olivier Magdelaine.
Choix des textes et présentation par Eglal Herrera.
Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière.
Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Clémence Gross, Bernard Laniel, Étienne Vallès.
Les discours de réception des prix Nobel de littérature sont parus chez Flammarion, en coédition avec France Culture.